Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre publié en 1949 sous le sous-titre Archétype et répétition. Le mythe de l'éternel retour est un essai majeur de Mircea Eliade, historien roumain des religions. Dans sa version anglaise, l'ouvrage a également circulé sous le titre Cosmos and History, ce qui indique son double objet, les manières religieuses de concevoir le monde et le rapport de ses conceptions au devenir historique. Eliade compare des mythes, rites, symboles et institutions provenant de sociétés traditionnelles diverses. Il propose que ces cultures ne valorisent pas principalement la nouveauté historique, mais la répétition exemplaire de gestes accomplis aux origines. Un acte devient pleinement réel lorsqu'il reproduit un modèle mythique, et les rites périodiques permettent de régénérer le temps et le cosmos. L'essai oppose ainsi le temps sacré, réversible et rituellement réactivé, au temps profane, cumulatif et irréversible. Cette vaste synthèse a profondément marqué les études religieuses, tout en suscitant des débats sur ses généralisations comparatives et sur sa représentation des sociétés traditionnelles. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les archétypes donnent aux actes humains leur réalité exemplaire. Le point de départ du livre est la notion de modèle exemplaire, souvent désigné par Eliade comme archétype. Dans les cultures qu'il étudie, les activités importantes ne tirent pas d'abord leur sens de l'intention individuelle ou de leur date précise. Elles acquièrent une efficacité parce qu'elles répètent une action accomplie par un dieu, un ancêtre mythique ou un héros civilisateur au commencement. Construire une maison, cultiver, chasser, se marier ou exercer une fonction politique peut donc reproduire une fondation première. La répétition ne constitue pas une imitation appauvrie, elle rend le geste présent conforme à une réalité originaire, plus dense et plus signifiante que le simple événement quotidien. Eliade emploie cette logique pour expliquer pourquoi les cérémonies de fondation, les rites agraires et les rituels royaux se réfèrent si fréquemment à une cosmogonie ou à un récit des origines. Ils ne commémorent pas seulement un passé lointain. Ils cherchent à rendre ce passé opérant ici et maintenant. Cette thèse déplace la question de la croyance. Le rite est moins une opinion sur le monde qu'une manière de réinscrire une action humaine dans un ordre sacré. Elle éclaire aussi le titre « Le retour » concerne avant tout le retour au modèle fondateur, non la répétition mécanique de tous les faits du monde. L'analyse reste cependant typologique, car Eliade rapproche des matériaux éloignés sans toujours restituer leurs contextes sociaux et historiques propres. Deuxièmement, le temps sacré se régénère par les rites de Nouvel An. Les cérémonies de Nouvel An occupent une place centrale dans la démonstration, car elles manifestent avec une netteté particulière la possibilité de recommencer le temps. Eliade observe, dans plusieurs traditions, une séquence rituelle associant expulsion des maux, confession ou purification, parfois désordre symbolique, puis réactualisation de la création du monde. Les fautes, maladies, conflits et impuretés accumulées durant l'année sont symboliquement éliminées. Le temps usé est aboli afin qu'un temps neuf puisse commencer. La récitation ou la représentation de la cosmogonie est donc pas un décor narratif, elle réinstalle le monde dans la plénitude de son origine. Eliade y voit une logique de régénération cosmique solidaire d'une régénération humaine. L'individu et le groupe retrouvent une capacité d'agir parce que l'univers lui-même est ramené à son état inaugural. Cette structure permet de comprendre la différence entre un calendrier administratif et un calendrier religieux. Le premier mesure la succession, tandis que le second organise des passages entre durée ordinaire et temps des commencements. Le retour rituel ne nie pas que les jours passent. Il refuse que leur accumulation ait le dernier mot. La souffrance et l'erreur sont pensées comme des charges susceptibles d'être annulées par une remise à l'origine. L'interprétation d'Eliade est influente, mais elle doit être lue avec prudence. Les fêtes du Nouvel An ont aussi des fonctions politiques, économiques et locales que son schéma universalisant laisse souvent au second plan. Troisièmement, le mythe cosmogonique transforme les crises en recommencement. Eliade accorde une fonction structurante au récit de création. La cosmogonie explique non seulement comment le monde a commencé, mais fournit le paradigme de toute création, guérison, restauration ou prise de possession d'un espace. Quand une crise menace l'ordre collectif, le recours au commencement offre une voie symbolique pour en sortir refaire le monde, signifie d'abord rétablir les distinctions et la vitalité que la crise a brouillées. Cette idée éclaire les liens établis dans le livre entre rites de fondation, purification, guérison et fêtes calendaires. Une construction importante peut être assimilée à une création du cosmos, car elle fait émerger un espace ordonné au sein de ce qui était indifférencié. De même, la guérison peut être conçue comme un retour à une intégrité antérieure à la maladie. Le livre ne soutient pas que toutes les sociétés racontent le même mythe dans les mêmes termes. Il dégage plutôt une structure interprétative. Le commencement possède une valeur normative parce qu'il est tenu pour l'irruption première du sacré et de l'ordre. Cette perspective aide à comprendre pourquoi la mémoire rituelle vise moins la conservation documentaire du passé que sa réactivation. Elle explique également la force des formules de répétition dans les traditions religieuses. Toutefois, le lecteur contemporain doit distinguer l'outil comparatif de la réalité historique de chaque tradition. La cosmogonie ne produit pas partout les mêmes pratiques ni les mêmes significations, et les sources mobilisées par Eliade relèvent de périodes et de contextes très différents. Quatrièmement, la critique de la terreur de l'histoire révèle une opposition décisive. Dans les derniers mouvements de son essai, Eliade formule son contraste le plus célèbre entre les sociétés attachées aux archétypes et l'homme moderne qui assume l'histoire. Il appelle terreur de l'histoire l'expérience des catastrophes, violences et épreuves qui semblent irréversiblement inscrites dans une succession d'événements singuliers. Lorsque l'histoire est valorisée comme réalité autonome, aucune répétition rituelle ne paraît pouvoir annuler le poids d'un désastre passé. À l'inverse, les dispositifs mythico-rituels étudiés plus tôt offrent des moyens de désactualiser le temps écoulé et de rétablir le contact avec les origines. Cette opposition ne signifie pas simplement que les uns ignoreraient les événements et que les autres les connaîtraient. Eliade montre plutôt deux manières d'attribuer une valeur au temps L, une privilégie le modèle transhistorique, l'autre confère une importance décisive à l'événement unique et à sa conséquence durable. Son analyse aborde également les traditions bibliques dans lesquelles les événements peuvent recevoir un sens parce qu'ils sont rapportés à une volonté divine et à une orientation historique. Le propos est intellectuellement stimulant, car il relie une théorie du rite à une interrogation existentielle sur la souffrance, mais sa polarité entre archaïque et moderne est aussi l'une des limites majeures du livre. Elle tend à homogénéiser les sociétés comparées et à opposer trop nettement histoire, religion et modernité alors que ces dimensions se chevauchent souvent. En dernier lieu, la distinction entre sacré et profane organise une théorie de l'espace et du temps. Le mythe de l'éternel retour appartient au projet plus vaste par lequel Eliade analyse la distinction entre sacré et profane. Dans cet ouvrage, cette distinction se manifeste surtout dans le rapport au temps, mais elle concerne aussi l'espace. Un lieu consacré, un centre rituel ou un territoire fondé ne sont pas perçus comme de simples portions d'espace homogène, ils sont qualifiés par leur proximité avec un acte primordial ou une présence. Sacré. Les rites de fondation transforment ainsi un emplacement en monde habitable et ordonné. Cette articulation entre espace et temps renforce la cohérence de son argument « revenir à l'origine » ne consiste pas à fuir abstraitement le présent, mais à renouveler les conditions mêmes qui rendent un monde intelligible et vivable. Les cycles naturels, les calendriers, les seuils et les fondations deviennent des occasions de passage entre ordre profane et réalité sacrée. Eliade ne réduit pas le sacré à une croyance intérieure. Il le traite comme une dimension qui organise gestes, lieux, rythmes collectifs et critères de réalité. Cette ambition explique l'influence durable du livre auprès des lecteurs de mythologie, d'anthropologie religieuse et de philosophie de la culture. Elle explique aussi les réserves méthodologiques à son égard. En privilégiant des correspondances symboliques de grande ampleur, Eliade laisse moins de place aux conflits internes, aux transformations historiques et aux rapports de pouvoir qui façonnent concrètement les pratiques. Lire le livre aujourd'hui suppose donc de saisir la puissance de sa grille interprétative sans la convertir en description exhaustive des religions. En conclusion, le mythe de l'éternel retour conviendra particulièrement aux lecteurs de philosophie de la religion, de mythologie comparée, d'anthropologie culturelle et d'histoire des idées. Il est aussi utile à toute personne cherchant une formulation claire de problème, devenu classique. Pourquoi les rites répètent-ils des récits originels? Comment une communauté donne-t-elle une forme au temps? Et de quelle manière les sociétés affrontent-elles la mémoire des crises? Son bénéfice intellectuel principal réside dans la force de ces distinctions. Les couples origine et histoire, temps sacré et temps profane, répétition et événements permettent de relier des pratiques très diverses sans les réduire à de simples curiosités folkloriques. Le livre fournit ainsi une carte conceptuelle durable pour interpréter fondations, fêtes calendaires, purifications et récits cosmogoniques. Il se distingue des inventaires de mythes ou des études limitées à une religion par son ambition synthétique. Eliade ne cherche pas principalement à résumer des traditions. Il propose une hypothèse sur la fonction existentielle et cosmique du rite. Cette ampleur fait sa singularité, mais impose aussi une lecture critique. Les chercheurs ont contesté ses oppositions trop générales, son usage de sources hétérogènes et l'effacement relatif des situations historiques concrètes. Ces réserves ne rendent pas l'ouvrage négligeable, elles situent son statut de grand essai interprétatif plutôt que de démonstration ethnographique définitive. Pour un lecteur averti, sa valeur tient précisément à cette tension. Il reste une référence pour comprendre l'influence de la pensée d'Eliade et pour examiner, avec discernement, ce que les mythes et les rites font au rapport humain au temps. Si vous souhaitez soutenir Mircea Eliade, pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!